whole pot.
Vous pouvez fermer la porte. Non, pas encore. J'ai regardé un peu, mais j'ai pas eu le temps de corriger. Mais je vais faire un corrigé. On va peut-être faire une séance où on va tout corriger d'un coup, à la fin, juste avant les vacances. Alors, je vais vous donner un exemple, juste pour que ce ne soit pas trop abstrait pour vous, cette méthode de la dissertation. Par contre, on ne va pas la faire ensemble parce qu'on n'a pas le temps. On doit avancer sur d'autres choses. Mais je vais vous montrer sur un énoncé les étapes de construction, ou plutôt de les étapes de les composantes d'une introduction et des parties que vous pouvez faire. Je vais peut-être la mettre en ligne, en fait. Comme ça, vous pourrez peut-être la regarder avec une tête reposée. C'est beaucoup dire. C'est faire trop confiance en mes capacités. Et on va dire ça, c'est un idéalisme, ça me va très bien. Alors, donc, je prends un exemple de l'année dernière, qu'on avait fait l'année dernière. Une dissertation et un sujet de dissertation qui avait été proposé l'année dernière, à la même période de l'année. Et donc, que vous pouvez, si vous voulez comprendre de façon assez exhaustive, puisque ça correspond à la même étape de... Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me dire pourquoi vous discutez tout le temps ? Est-ce que vous pourriez la prochaine fois vous mettre loin, parce que je sais que je vois que vous vous aimez beaucoup, mais vous pourriez peut-être la prochaine fois vous éloigner un tout petit peu, comme ça, ça m'assurera un petit peu plus de tranquillité, d'accord ? Alors, donc, l'exemple est tiré de l'année dernière. Le sujet était le suivant. Le sociologue peut-il être neutre ? Point d'interrogation. Le sociologue peut-il être neutre ? Alors, vous pouvez le comprendre presque dans sa totalité, puisque le sujet est très général. Il s'appuie sur des choses vraiment, comment dire, dont on peut parler dès le départ, avec l'introduction au raisonnement sociologique que vous avez eu. Il y a peut-être juste deux ou trois points qui ont été un petit peu spécifiques l'année dernière, mais normalement, comme je sais que vous êtes dévorés tous par une soif de savoir terrible, je pense que vous avez déjà tous lu tous les compléments que j'ai mis en ligne, et notamment tout le cours d'Olivier Martin que nous avons eu l'année dernière. Bon, si vous ne l'avez pas fait, je vous y invite, parce que tout simplement c'est intéressant, et ça vous servira pour l'examen, puisque vous avez dedans des tas de compléments en sociologie des sciences que vous n'avez pas eu en entier, en tout cas, dans le cours de Éric Le Tonturier, et que vous pourrez rajouter. Donc, vous pourrez vous servir aussi, parce que toute connaissance sur le sujet est bienvenue. Bref, mais en tout cas, normalement, ça devrait se passer très bien. Donc, le sociologue est-il neutre ? Peut-il être neutre ? Le sociologue peut-il être neutre ? On vient de voir la méthode, donc vous devez y répondre immédiatement. À quel type de plomb ? Une question pareille vous invite. Plan dialectique, exactement. Pas de doute, c'est une question qui est posée de telle façon à ce qu'on puisse répondre oui, il peut être neutre, non, il ne peut pas être neutre. Donc, vous pouvez y aller pour chercher un plan dialectique. Alors, on aurait pu faire l'exercice tous ensemble, que j'aurais pu vous laisser chercher, etc., etc., mais bon, on ne va pas le faire. Donc, je vous donne vraiment un exemple. Un exemple. Donc, première chose pour analyser le sujet, donc je vous avais dit qu'il fallait regarder les définitions des termes. Donc ici, quels sont les termes à définir ? Alors, le terme le plus important, évidemment, c'est le terme neutre. D'accord ? Donc la neutralité. Qu'est-ce que c'est la neutralité ? Et puis, vous avez le terme de sociologue également. Le terme de sociologue qui peut aussi poser problème. Alors, la notion de neutralité, ça renvoie à quoi ? Qu'est-ce que c'est, la neutralité ? Qu'est-ce que ça veut dire être neutre pour un sociologue ?
Être impartial.
Oui ? Oui, non, mais je ne vous demande pas des synonymes. Je vous demande de dire à quoi ça renvoie.
Être en distance de l'objet.
Oui ?
Extérieur.
Oui ?
Parler de manière.
Oui, aussi. tout ça fait référence en fait à des possibles biais subjectifs. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que le sociologue doit se départir des biais subjectifs qui interviennent dans son jugement, des jugements de valeur ou des préjugés ou des prénotions. Et en tout cas, ça fait référence à sa subjectivité. D'accord? Première chose, premier aspect de la neutralité, c'est effectivement une distance par rapport à la subjectivité du chercheur. Il y a un deuxième aspect dans ce terme neutralité qui peut-être vous apparaît moins parce que justement vous n'avez pas eu un cours détaillé là-dessus, mais l'année dernière il devait apparaître très clairement à tous ceux qui avaient abordé ce sujet, c'était la neutralité du sociologue en tant qu'acteur social par rapport aux forces, disons, aux autorités extérieures, autorités politiques, autorités économiques, etc., auxquelles est soumise toute science. C'est-à-dire, on a eu un cours très détaillé, que je vous invite à parcourir, en sociologie des sciences, avec la discussion de cette idée, est-ce que la science est indépendante ou non des pressions du monde extérieur? Donc, est-ce que, en définitive, le sociologue peut faire son travail d'une façon neutre, ou alors est-ce qu'il est dépendant des pressions extérieures, donc la conjoncture politique, les commandes, lorsqu'il est financé par des autorités privées, etc. Donc il y avait ces deux côtés à considérer dans la notion de neutralité. Deux côtés, donc distance par rapport à la subjectivité et indépendance, distance par rapport aux autorités extérieures. Alors par rapport au sociologue, qu'est-ce qu'on pouvait dire du sociologue? Alors évidemment, il ne fallait pas partir dans des définitions énorme sur qu'est-ce qu'un sociologue, un être humain, alors bon, etc. Il fallait considérer la question par rapport à la spécificité de la sociologie, c'est-à-dire sa singularité à côté par rapport aux autres disciplines, en rapport avec cette question de neutralité. La neutralité est un idéal de toute science, mais la sociologie est dans une position un peu spécifique. Pour les deux dimensions de la neutralité qui ont été évoquées, elle est dans une position spécifique par rapport au biais subjectif. Pourquoi? On l'a vu plusieurs fois. Pourquoi le sociologue est dans une position qui n'est pas celle d'un physicien, par exemple? Parce que d'abord, il fait partie de l'objet qu'il étudie, donc il est dans la société, ce qui n'est pas le cas du physicien. Et deuxièmement, pour l'autre aspect, si vous voulez, de la définition de la neutralité, le sociologue... La sociologie est une science qui subit avec une force particulière les pressions de ses autorités extérieures, politiques, économiques et autres, parce qu'elle est en discours sur la société, donc qui est un discours qui est lourd d'enjeux. De la définition des problèmes sociaux dépendent aussi les mesures qu'on va prendre. Donc la sociologie est dans une position particulièrement délicate. Bon, et là vous voyez d'une façon particulièrement flagrante, dans cet exemple, que définir les notions, c'est déjà être dans la problématique. Est-ce que vous le voyez ou pas? C'est-à-dire que définir ce que c'est être neutre et définir ce que c'est un sociologue par rapport à un chercheur X, c'est déjà remarquer que le problème peut être traité de différentes façons. C'est-à-dire que la neutralité est un idéal pour l'ensemble des sciences, donc c'est un idéal pour la sociologie. Donc la sociologie doit proposer des façons de parvenir à cette neutralité. Donc il doit y avoir des façons pour le sociologue d'être neutre. Et à la fois, le sociologue est confronté à des problèmes très particuliers qui l'empêchent d'accéder à cette neutralité. Donc sa capacité à rester neutre est sujette à caution. Bon. Alors, si on regarde l'introduction, ici, enfin non, on ne va pas regarder l'introduction, on va finir le raisonnement jusqu'au bout comme si on était en train de le faire. Donc, problématique, est-ce que vous voyez un petit peu ce que c'est la problématique ici? Oui, voilà. Donc, elle découle très naturellement, ici, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, de la définition des notions, donc neutralité et sociologie. Bon, donc à partir de cette problématique, vous devez trouver un plan. Alors ici, il y a eu plusieurs façons de traiter ce sujet qui étaient bien notées l'année dernière parce qu'elles répondaient à la question d'une façon logique. Beaucoup de gens avaient fait des choses en deux parties, évidemment, puisque 3 heures c'est court et il est tout à fait traitable en deux parties ce sujet. Alors je vous propose là, comme exemple, 3 parties, puisque c'est une idéal type, quand même, on peut rester dans 3 parties. Donc 3 parties avec une thèse, une antithèse et une synthèse, si vous voulez. Donc les parties suivantes, en premier lieu, on peut, dans ce sujet, traiter tout ce qui constitue des obstacles à la neutralité, puisque c'est quelque chose qui tombe sous le sens dès qu'on se demande qu'est-ce que c'est être un sociologue, qu'est-ce que c'est faire de la sociologie. On tombe d'abord sur une série d'obstacles à la neutralité, donc des choses qui empêchent le sociologue d'être neutre. Donc d'abord, des obstacles à la neutralité. Ensuite, en tant qu'antithèse, on peut se pencher sur des solutions que la sociologie apporte, donc des techniques, des solutions qui permettent aux sociologues d'approcher la neutralité, ou en tout cas de travailler sur sa neutralité. Et puis, on peut proposer, dans ce cas, c'est particulièrement facile, si j'ose dire, on peut proposer une synthèse, c'est-à-dire on peut se proposer de réfléchir, de considérer la question qui fait que c'est en abandonnant la quête d'une neutralité absolue, en abandonnant cet idéal de neutralité absolue, que le sociologue parvient, paradoxalement, à être le plus neutre possible. Donc, c'est en abandonnant l'idéal, la quête d'une neutralité totale, que le sociologue remplit au mieux cette tâche de neutralité. Alors, normalement, avec tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année, ça devrait vous être assez clair. C'est-à-dire, première partie, les obstacles à la neutralité, les obstacles qui empêchent le sociologue d'être neutre. Vous avez donc toute une série de biais subjectifs, des biais subjectifs qui sont liés autant aux origines sociales du sociologue, donc qui est positionné lui-même dans la société, qui a un avis, qui a une position dans la société, que à ses ambitions personnelles, donc la place de la science dans ses stratégies. Et ces obstacles étaient valables pour toutes les étapes de l'enquête, du choix du sujet, en passant par l'enquête elle-même, et en finissant par l'interprétation des données. C'est-à-dire, avec toutes ces idées qu'on a vues plusieurs fois, le choix du sujet qui est déterminé par le rapport aux valeurs, vous vous souvenez de Weber, le choix du sujet ne se fait pas au hasard, voire il se fait parfois en fonction d'un engagement politique. Ça, vous l'avez peut-être moins vu, mais on l'avait vu l'année dernière. On avait vu la question de l'engagement des sociologues, donc plusieurs sociologues qui sont à la fois des individus engagés politiquement. Les biais subjectifs peuvent peser pendant l'enquête. Ça, vous l'avez vu un petit peu déjà dans ce que je vous ai raconté sur la méthode de l'entretien. Vous allez le voir aussi dans la méthode d'observation. Comment choisir les questions, comment les formuler, comment limiter le poids social de cette interaction entre l'enquêté et l'enquêteur, etc. Donc tout ceci, la façon dont vous aborderez le milieu d'enquête dont vous allez enquêter dépend aussi de votre socialisation, de votre habitus, au sens de Bourdieu, etc. Et puis également, à l'étape de l'interprétation des données, ces mêmes variables vont jouer également. Ces obstacles se posent également aux sociologues du point de vue de du rapport qu'il entretient avec les autorités extérieures, c'est-à-dire le deuxième sens de la neutralité, si vous voulez. Puisque la dépendance du sociologue à l'égard de la société peut être aussi bien matérielle, la science n'existe pas dans le vide, un sociologue il est financé par des gens. Vous avez tout ce qui concerne les critiques qui étaient adressées au schéma mertonien, et vous avez ça de façon développée dans le cours d'Olivier Martin de l'année dernière, vous ne l'avez pas trop dans le cours d'Éric Le Fourturier, mais beaucoup l'année dernière, et qui montre que la science ne se fait pas de façon totalement indépendante.
On aura tout vu.
Ça ne suffit pas de vous cacher. On vous entend. On ne vous voit pas, mais on vous entend. Alors, la société influence le sociologue d'une façon, de bien d'autres façons, plus subtiles peut-être que cette dépendance matérielle. C'est-à-dire que la société détermine des questions qui se posent au sociologue. La société influence l'état de la sociologie. Donc les travaux, à un moment donné, ne peuvent pas être qualifiés d'entièrement neutres, puisqu'elles portent l'empreinte des questionnements et des problèmes de l'époque, etc. etc. Par exemple, la question du lien social, vous vous souvenez, chez Durkheim, elle était déterminée par les problèmes amenés par les transformations rapides de la société, etc. Et puis, il existe cette question de l'engagement volontaire du sociologue dans l'activité politique ou pour des causes, etc. Bref, donc tout ça pourrait constituer l'objet d'une première partie. Deuxième partie, donc, concernant les techniques qui permettent d'approcher la neutralité, qui pouvait servir d'antithèse. Ok, les obstacles existent, mais il existe aussi des techniques dont le sociologue dispose qui lui permettent de réduire cette non-neutralité et de parvenir à un degré raisonnable de neutralité. Et donc là, vous pouviez parler, ou vos camarades de l'année dernière en tout cas pouvaient parler, de tout ce qui concernait le processus d'objectivation qui est mis en œuvre par notamment la sociologie durkheimienne, donc cet objectif de traiter les faits sociaux comme des choses, de se départir des prénotions, ou des préjugés chez Bachelard, donc c'est quelque chose qui se rattache à la démarche scientifique en général, et qui a été repris par bien d'autres sociologues, donc j'ai cité tout à l'heure le métier de sociologue, de Bourdieu, Chamberaudon et Passeron, qui exploitent la même idée de rupture avec des connaissances immédiates, avec ce biais subjectif qui pèse sur tout sociologue, mais qu'on peut essayer de dépasser, et qu'on peut entre autres essayer de dépasser grâce aux méthodes, par exemple, quantitatives, grâce aux chiffres, donc ceux dont je vous ai parlé l'avant-dernière fois, ou je ne sais plus quand, donc où on avait vu comment les chiffres pouvaient fournir un objet, un outil objectivant qui permet de rompre avec des savoirs subjectifs, des savoirs immédiats, et réduire le poids de ces biais subjectivistes. Avec plein d'exemples que vous pouvez citer sur les chiffres qui permettent à Durkheim de dépasser les préjugés sur le suicide de son époque, ou la façon d'objectiver des notions abstraites. Vous vous souvenez l'exemple qu'on avait vu sur la notion d'autonomie des adolescents, ou la notion de relation familiale, avec des questions, des indicateurs neutralisants qui permettent de réduire le poids des opinions et de la subjectivité. Et puis, en troisième partie, dans la synthèse, ce qu'on pouvait aborder, c'est la question d'une posture particulière du sociologue qui lui permet de réduire la neutralité d'une façon paradoxale, entre guillemets, c'est-à-dire en prenant conscience, justement, du caractère non neutre de sa démarche. C'est-à-dire, c'est tout ce qui concerne l'explicitation de la démarche, l'explicitation des biais. Ça remonte à Max Weber, avec l'idée de neutralité axiologique, où Max Weber explique qu'il faut prendre conscience de son rapport aux valeurs pour justement pouvoir mieux s'en distancier. Il ne sert à rien de prétendre qu'on est neutre ou de rechercher une neutralité hypothétique et impossible. Il faut prendre conscience pleinement de son rapport aux valeurs et donc de ses partis pris, mais de les expliciter, c'est-à-dire de les rendre clairs à chacun. Donc rendre clair ses partis pris en termes de valeurs, mais aussi rendre clair la démarche. Et ça, c'est tout ce qu'on a vu à propos du questionnaire notamment, et à propos de la méthodologie en général. C'est-à-dire qu'un travail sociologique suppose de rendre public les différentes étapes du travail et la construction de votre méthode. Lorsque vous obtenez un résultat, il est important d'expliciter comment vous êtes parvenu à ce résultat. Donc ce qui explicite chaque étape de votre enquête, et explicite les biais possibles qui y sont contenus. Mais, comment dire, vous n'arrivez pas ainsi à l'objectivité ou à la neutralité, mais vous arrivez à réduire le danger qui réside dans cette neutralité. Alors, il y avait d'autres auteurs que Weber que vous pouviez utiliser ici. Vous verrez dans le cours de Olivier Martin, il y a pas mal de choses là-dessus. notamment en ce qui concerne le programme fort du relativisme avec David Bloor. Vous vous souvenez, on en a parlé un peu avec Éric Le Tourturier en sociologie des sciences. Donc David Bloor préconisait notamment de, pour chaque sociologue, lorsqu'il fait son enquête, alors ça concernait les sciences, mais on peut le généraliser, de faire une auto-objectivation, c'est-à-dire examiner pour quelles raisons le sociologue croit ce qu'il croit. Donc, et expliciter en quoi ses propres convictions ont pu constituer un biais pour l'enquête. Donc c'est un peu la suite de l'idée de Max Weber, de la neutralité axiologique. En tout cas, qui développe la même question de cette posture particulière du sociologue. Donc, tout ça vous a mené à une conclusion. Conclusion. Une conclusion qui consistait à dire que une neutralité totale est effectivement impossible pour un sociologue. Le sociologue ne peut pas être entièrement neutre. Mais il peut s'efforcer de réduire au maximum le manque de neutralité, et en particulier la réduire à travers l'explicitation de sa posture, donc la démarche d'expliciter les biais qui peuvent être les siens. Donc ça fait, si vous voulez, le premier élément de la conclusion. Deuxième élément, pour ouvrir le débat, l'année dernière c'était très pratique aussi, il y avait plein de choses à dire, on pouvait déplacer ici la question, c'est-à-dire voilà, on a fait tout un raisonnement sur la question de savoir est-ce qu'un sociologue peut être neutre, on pouvait ensuite déplacer le débat pour poser la question de savoir, voilà, il le peut dans ses limites ou dans ses conditions, mais est-ce qu'il faut rechercher la neutralité pour le sociologue? C'est-à-dire formuler la question tout à fait autrement. Est-ce qu'il faut être neutre? Donc est-ce que la neutralité est nécessaire? Et on pouvait le faire parce qu'on avait des éléments dans le cours l'année dernière qui permettaient de voir que certains sociologues revendiquaient la position engagée, c'est-à-dire non neutre, de façon volontaire. Ils revendiquaient cette position comme plus intéressante, scientifiquement parlant. C'est-à-dire qu'une sociologie avait la vocation d'être critique et non neutre. Donc, si vous voulez, ça ouvrait le débat sur les objectifs de la sociologie. À quoi sert la sociologie? On a eu toute une partie du cours de Olivier Martin était consacrée aux objectifs de la sociologie, la finalité de la sociologie, qui ne fait pas consensus parmi les sociologues. Voilà, donc c'est un exemple. Je pense que je vais le mettre en ligne. Comme ça, vous pourrez voir, je vais vous détailler une phrase d'introduction, une accroche, la façon d'amener le sujet, les définitions, la problématique, etc., l'annonce du plan, donc vous aurez un modèle. Sauf que, évidemment, dans votre propre travail, il ne faudra pas faire phrase d'introduction, deux points, qui mettent la phrase, d'accord? Définition, deux points. Je vais le faire pour que ce soit clair où et quoi, mais il ne s'agit pas, évidemment, de... Il s'agit d'écrire un texte qui se suit, qui est un texte fluide. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Non, il ne faut pas développer la deuxième question à la fin. La deuxième question doit rester une question. C'est une façon d'ouvrir le débat. Mais vous avez raison, parce qu'en fait, on peut considérer cette ouverture comme une façon de proposer un autre sujet de dissertation. Hein. Ça me sert à moi pour l'année prochaine. Si je reste là. C'est-à-dire que oui, vous avez raison, ça pose une vraie question, une autre question, mais non, vous n'avez pas à la traiter, ça suffit de travailler quand même. Vous aurez traité la question en long et en large, donc non. Vous suggérez des pistes de réflexion.
Et est-ce qu'on aura la seule question ou on a le choix?
Vous aurez deux questions au choix. Vous aurez deux questions et vous devrez en traiter une, évidemment. Je dis parce qu'on ne sait jamais. Et je précise pour tout le monde que le devoir donc est fixé au jeudi 29, donc de 18h30 à 21h30 dans cette salle même où nous nous trouvons actuellement, et qu'il y a un rattrapage pour les gens qui, pour une raison ou pour une autre, ne pourraient pas venir. Et ce rattrapage est réservé aux gens qui ont des raisons de ne pas venir. C'est pas juste au choix. Alors, soit c'est aujourd'hui, soit c'est... Alors, le rattrapage, vous devez normalement arriver avec un certificat médical. D'accord ?
Contrat de travail.
Oui, ou contrat de travail, mais franchement, le rattrapage, ça sera lundi de 15h à 18h. Alors, c'est moins intéressant. Normalement, il y a plus de chances que vous soyez libre de 18h30 à 21h30 que de 15h à 18h. Mais si vous avez un événement important au travail pile de 18h30 à 21h30 jeudi, oui, vous pouvez m'apporter un justificatif du travail. Mais tout ça pour vous dire que normalement, le devoir doit être fait jeudi prochain. D'accord ? Le rattrapage, c'est un cas exceptionnel. C'est pas un truc qu'on choisit. Vous le faites si vous avez un empêchement réel. Mais normalement, de toute façon, vous avez une obligation de présence, même en cours. Donc, et c'est pour ça qu'on passe des feuilles. D'ailleurs, je n'ai pas pensé, mais je vais le faire tout de suite. Alors. Merci. Tenez. D'autres questions ? S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui parle. S'il vous plaît. Bien sûr. Non. Évidemment, je pourrais compter sur l'absence de solidarité totale entre vous et me dire que même si c'est les mêmes, vous n'allez jamais les communiquer à vos camarades pour les garder rien que pour vous, mais je ne peux pas compter là-dessus entièrement. Des étincelles de solidarité ne sont jamais exclues. Vous savez, les relents de camaraderie et ça. Donc non, ce sera d'autres sujets, mais qui porteront sur les mêmes thèmes. Et ce sera la même chose pour l'examen, vous aurez une date à laquelle normalement tout le monde doit faire l'examen, et une date de rattrapage pour les gens qui ne peuvent pas pour des raisons valables. Et ce sera deux sujets au choix, mais ce sera des sujets différents. Donc de toute façon, ça ne vous servira à rien ensuite de vous enseigner auprès des autres. Bien évidemment. D'autres questions ? Non ?
Oui ? Utiliser les dictionnaires.
Oui, vous pouvez utiliser les dictionnaires. Russe, français, français, russe.
N'importe si c'est
non. Petit. Non. Les petits dictionnaires. Mais vous ne pouvez pas utiliser... Oui, vous ne pouvez pas utiliser d'ordinateur, de je sais pas quoi. Vous ne pouvez pas apporter... Alors, je sais que quelqu'un va le faire, parce que l'année dernière, il y a tellement de gens qui l'ont fait que je pense que ça va se produire. J'avais déjà fait un discours vibrant contre les antisèches. Vous savez ce que c'est les antisèches ? J'avais déjà fait un discours, donc je ne vais pas le refaire. Mais je sais que des gens vont venir avec mon cours imprimé, relié, qui vont le mettre sur la table et qui vont se mettre... Donc, bon, je ne peux que répéter que c'est inutile, parce qu'une dissertation ne se fait pas comme ça. Vous allez perdre du temps à le faire plutôt que d'en gagner. Et puis, je vais essayer quand même de les découvrir. Je vais essayer de vous démasquer. Donc, voilà. Et normalement, si on vous trouve avec une antisèche, on vous met zéro. Voilà. Je l'ai fait l'année dernière, donc je le referai encore. L'enseignement est gratuit ici. Vous ne pouvez pas me corrompre. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, il nous reste une heure, ce qui est parfait. On va aborder la question suivante, qui est au programme. On va continuer sur la question des méthodes. Puisque, vous vous souvenez, il nous reste une méthode qualitative importante à traiter. C'est quelle méthode ? Oui, c'est laquelle ? Ça, je l'ai dit, c'est pas marrant. C'est l'observation, exactement. On a vu l'entretien, il y a deux méthodes principales. Ce n'est pas les seules, vous avez plein de compléments, mais les méthodes essentielles du côté qualitatif, c'est l'entretien et l'observation. Et ça tombe très très bien parce que après le devoir sur table, il nous reste deux cours, séminaires, ensemble, avant les vacances. Et pendant ces deux cours, on va aborder le courant sociologique suivant. Suivant. Donc, le courant sociologique suivant, l'école de Chicago, si ça vous dit quelque chose. Et l'école de Chicago est précisément un courant sociologique qui s'appuie sur des méthodes qualitatives, qui ont développé les méthodes qualitatives. Donc, avoir une idée de ce que c'est l'entretien et puis l'observation aussi, ça va vous servir à mieux comprendre la démarche de ces sociologues et ce qu'ils racontent. Donc, observation. Donc, qu'est-ce que c'est l'observation? Je vous donne une définition très sommaire de l'observation au sens sociologique du terme. On appelle l'observation une présence systématique, et qui est souvent prolongée. Hein. Ça doit être, enfin, en général, c'est une présence longue. Donc, une présence systématique et souvent prolongée de l'enquêteur sur les lieux mêmes de l'enquête. La présence systématique est souvent prolongée de l'enquêteur sur les lieux mêmes de l'enquête au sein du groupe social étudié. Au sein du groupe social étudié. La présence systématique est souvent prolongée de l'enquêteur sur les lieux mêmes de l'enquête au sein du groupe social étudié. Alors, vous avez différents types d'observation. Vous n'avez pas qu'un seul type d'observation, vous avez plusieurs types d'observation. Et il y a deux clivages, deux critères qui différencient les types d'observation. Le premier critère, c'est est-ce qu'une observation est participante ou non participante. Observation participante ou non participante. Alors, l'observation non participante, le sociologue est juste présent. Il est présent sur les lieux de l'enquête, dans le groupe social étudié, et il observe en tant que sociologue. L'observation participante, on parle d'observation participante lorsque le chercheur non seulement est présent, mais en plus il participe à une situation sociale. Il participe à une situation sociale. À l'activité d'un groupe, par exemple. Ça, c'est le premier critère, participante, non participante. Puis un deuxième critère, c'est une observation incognito ou une observation à découvert. Oui ? Sans qu'on sache qui vous êtes. Et cette deuxième distinction est la plus, enfin, elle vaut essentiellement pour l'observation participant. C'est-à-dire lorsque vous participez aux activités d'un groupe, vous pouvez soit le faire incognito, soit à découvert, c'est-à-dire en expliquant qui vous êtes, que vous êtes sociologue. Alors, le principal avantage de l'observation par rapport à des méthodes telles que les entretiens ou le questionnaire, pour une fois on les met dans le même tas, même s'il s'agit de deux méthodes différentes, l'entretien et le questionnaire, mais par rapport à ces deux méthodes de recueil de témoignages ou de paroles ou d'enregistrement des données, l'intérêt de l'observation, c'est que c'est une démarche donc qualitative compréhensive, mais qui permet une analyse in vivo. Si vous voulez, une analyse dans le temps de l'action, sur le vif. On peut utiliser une métaphore. Si vous êtes zoologue et que vous étudiez des animaux, vous pouvez les étudier dans un zoo, dans une cage. Ou alors vous pouvez aller dans la forêt. D'accord ? Ou dans la steppe, sur la banquise. Et vous n'allez pas observer les mêmes choses. Si vous observez les animaux dans une cage, dans des situations artificielles, ou si vous les observez dans leur milieu naturel, où ils évoluent librement. Vous pouvez participer en essayant de vous camoufler un petit loup. Incognito. Incognito. Bon. Alors, dans quel cas on privilégie l'observation? Dans quel cas on privilégie l'observation? L'un des cas, c'est lorsque précisément les méthodes telles que l'entretien ou le questionnaire, qu'elles soient qualitatives, ces méthodes ou quantitatives, lorsque ces méthodes ne disent pas tout, lorsque vous avez des lacunes laissées par ces méthodes, qu'il s'agit de combler. Alors pourquoi le questionnaire et l'entretien peuvent laisser des lacunes? Parce que les deux méthodes, malgré leurs différences profondes, sont fondées, malgré tout, sur la parole des acteurs. C'est-à-dire que les gens vous disent, soit ils vous racontent en détail, soit ils cochent des cases, etc. Mais n'empêche que les deux méthodes sont basées sur la parole des acteurs. Or, le discours des acteurs sur leur pratique ne correspond pas toujours exactement à la réalité de leur pratique. C'est un problème central pour un sociologue. Vous avez beaucoup de cas de discours construits, c'est-à-dire de discours préfabriqués, que les gens vous ressortent en croyant bien faire, hein, pas du tout pour vous tromper exprès ou quoi que ce soit, mais qu'ils vous sortent et qui ne correspondent pas exactement à la réalité des choses. Il y a de nombreux facteurs qui font que les enquêtés peuvent vous sortir des discours. C'est la fête aujourd'hui. Qui peuvent vous sortir des discours donc qui ne correspondent pas à la réalité de leur pratique pour diverses raisons. Ils peuvent le faire pour essayer de se présenter sous un meilleur jour face à vous qui êtes aussi un acteur social. Donc dans cette interaction, ils peuvent essayer de se présenter sous un meilleur jour. Ils peuvent aussi le faire pour sauver la face. Vous allez voir, c'est un concept dans la sociologie interactionniste. Pour sauver la face, par exemple, lorsque vous faites une enquête sur la pauvreté ou sur l'exclusion, il y a des gens qui ne vont pas vous décrire la réalité de leur pratique pour des sentiments divers, tels que la honte, par exemple, la pudeur, etc. Un exemple. Je vous donne un exemple, il y en a mille. Si vous enquêtez sur les pratiques, en France, je dis, parce que bon, je ne sais pas du tout comment les choses se passent en Russie dans les boîtes de nuit, il y a un étudiant qui fait son mémoire là-dessus, je vais lui demander à la fin de l'année. Mais si vous faites une enquête en France sur les boîtes de nuit, sur par exemple l'activité des vigiles, vous savez les gens qui gardent l'entrée des boîtes de nuit, ils sont grands, costauds, et si vous leur demandez, est-ce que vous laissez rentrer les noirs? Ils vont vous dire, bien sûr, je laisse rentrer des noirs. Alors, ça dépend de la situation d'entretien. Ils peuvent aussi vous parler d'une façon... Mais la réponse immédiate, parce que c'est un politiquement correct, extrêmement prégnant en France. D'accord ? Avouez que vous êtes raciste, c'est très mal vu. Donc, ils ne vont pas vous dire probablement, en tout cas d'emblée, oui, non, bien sûr, je leur casse la gueule, je ne laisse pas rentrer. Bon. Donc, ça ne va pas, si vous voulez, il y a des situations où ça ne va pas vous apprendre beaucoup. Même si vous dites que c'est anonyme, les gens peuvent se méfier, etc., ou même être gênés, bon... Tandis que si vous observez leur pratique, alors évidemment, tous les vigiles ne sont pas racistes, je ne suis pas du tout en train de le dire, ni en France ni partout d'ailleurs, mais vous pouvez avoir des cas de comportement de cette nature que vous pouvez observer. Si vous ne l'observez pas, on ne va pas vous le dire. D'accord ? C'est un exemple. Deuxième cas dans lequel on privilégie l'observation. On privilégie l'observation lorsque l'enquête, l'étude porte sur les façon de faire, et non sur les caractéristiques d'une action. Alors je vais vous expliquer, ça paraît très abstrait parce qu'il n'y a pas trop de façons de le dire mieux. Donc lorsque l'enquête, l'étude porte sur les façons de faire, et non sur les caractéristiques d'une pratique, je vous donne un exemple qui va vous faire comprendre tout de suite. Si vous étudiez ce qu'on appelle la consommation ostentatoire, vous comprenez le terme ostentatoire? Ostentatoire, ça veut dire faite au vu de tous, faite pour se montrer. La consommation ostentatoire, par exemple, la consommation des oligarques russes dans les années 90. Ce qui va vous intéresser, ce qui va vous intéresser, ce n'est pas forcément ce que les gens pourraient vous dire dans un questionnaire, par exemple. Ça vous importera très peu qu'un oligarque des années 90, vous disent dans un questionnaire, voilà, alors j'ai acheté 14 boîtes de caviar noir et 2 Mercedes et 3 cravates, d'accord ? Ce n'est pas ça qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse dans l'étude de la consommation ostentatoire, c'est la façon dont il l'a fait. C'est-à-dire qu'il l'a fait de telle sorte à ce que ce soit vu, d'accord ? Que tout le monde voit quel caviar il mange et comment il mange, d'accord ? Comment la personne se met en scène dans sa consommation, comment la personne... utilise la consommation pour souligner son statut social aux yeux des autres. Tout ça, un questionnaire ou un entretien, nous ne vous le dirons pas forcément. Un questionnaire, en tout cas, certainement pas. Et puis, il y a un autre cas, alors ce n'est pas exhaustif, hein. Il y a trois cas, il y en a d'autres, mais c'est trois cas fréquents. Il y a un autre cas où on utilise beaucoup l'observation, c'est pour vérifier les données obtenues par d'autres moyens. C'est-à-dire, vous faites vos entretiens, vous faites vos questionnaires, mais vous voulez quand même vérifier l'adéquation de ces données aux pratiques réelles des gens. Donc vous allez sur place et vous observez. Bon. Il y a des cas d'enquête où vous devez privilégier l'observation participante. Toute observation n'est pas participante, mais il y a des observations qui sont participantes. Alors il y a des cas où vous devez privilégier, ou on privilégie, l'observation participante. Premier cas, il y a des terrains qui sont difficiles d'accès pour un sociologue. Il y a des cas où le terrain d'accès est difficile pour un sociologue. Exemple, il y a eu des études célèbres sur des sectes. Si vous voulez étudier une secte, qui est un objet passionnant d'études sociologiques, c'est assez difficile de venir et de dire « Bonjour, alors je suis sociologue, j'aimerais bien vous étudier ». Parce que vous avez des pratiques bizarres, et j'aimerais bien tirer tout ça au clair. Bon. Normalement, vos chances sont proches de zéro. Donc dans ce cas-là, en plus, dans ce genre de terrain, vous avez une observation participante et incognito, c'est-à-dire clandestine. Vous ne vous déclarez pas. D'ailleurs, je fais une remarque, parce que je ne sais plus si je comptais la faire ou pas. L'observation incognito pose des problèmes éthiques. Bien évidemment, qui sont un objet de discussion en sociologie, les sociologues ne sont pas d'accord. Certains considèrent que c'est une méthode non éthique, c'est-à-dire que par déontologie, le sociologue doit toujours se déclarer sociologue. Mais ils sont bien contents quand même d'avoir l'étude sur les sectes. Donc, bon, c'est une question qui n'est pas tranchée. L'année dernière, il y a eu une étudiante qui avait fait une observation incognito. Il y avait l'un des professeurs invités qui lui avait fait la remarque que quand même, c'est délicat, et sa tutrice était très contente. Bon. Je ne saurais vous apporter de réponse univoque. C'est une question compliquée. Donc, lorsque le terrain est difficilement accessible. Deuxième cas dans lequel on utilise l'observation participante, pas forcément incognito, elle peut très bien être déclarée, c'est lorsque on fait soi-même partie du groupe étudié. Si vous voulez étudier vos camarades, par exemple, vous voulez faire une enquête sur les étudiants du CUF. Si vous faites une observation, elle sera forcément participante, puisque vous y êtes. Vous me suivez? Vous faites partie des étudiants du CUF. Si vous voulez observer vos camarades pendant les cours, vous pouvez le faire, mais vous allez forcément participer, puisque vous êtes là aussi en cours. Bon. Et puis, dernier cas dans lequel on privilégie l'observation participante, c'est lorsque lorsqu'on étudie certaines pratiques qui peuvent être perturbées par la présence d'un observateur. Il y a des pratiques qui ne supportent que difficilement la présence d'un observateur. Ça en change le contenu, si vous voulez. Si vous déclarez comme observateur, ça change le contenu. Ou en tout cas, si non seulement si vous déclarez, mais si vous prenez une posture d'observateur, si vous vous mettez dans un coin avec votre petit carnet et puis vous vous observez ostensiblement. Donc parfois, que ce soit incognito ou à découvert, il vaut mieux participer pour ne pas perturber la situation sociale. Je vous avais parlé à propos de l'entretien d'un couple de sociologues, un mari et une femme, qui avaient étudié la bourgeoisie en France. Vous vous souvenez? Pinson et Pinson Charlot. Donc ils avaient étudié la grande bourgeoisie, les 200 familles, etc. Donc vous imaginez, une partie de leur terrain, c'était les rallyes et les cocktails, où se réunissent les grands bourgeois, en robe de soirée, tout ça, avec un petit verre de martini. Oui, je discute. Donc si vous voulez, dans ce genre de cadre, la présence d'un sociologue avec son petit dictaphone et avec son petit carnet qui se mettrait dans un coin, je peux vous observer, merci, ça, ce serait tout à fait incongru et ça changerait, ça perturberait complètement l'événement. Donc ils étaient forcés de participer. Alors, les terrains. Maintenant, sur quel terrain on peut pratiquer l'observation, sur quel terrain on a pratiqué l'observation historiquement, si vous voulez. historiquement. Alors, vous allez le voir très très vite dans les séances qui suivent. L'observation est une méthode qui est associée à l'école de Chicago, donc je vous l'ai dit. L'école de Chicago qui est une école sociologique américaine, comme son nom l'indique. Donc les terrains qui ont été étudiés en premier lieu par observation, ce sont des espaces circonscrits, c'est-à-dire limités. C'est logique, pour pouvoir observer quelque chose, il faut que la chose ne soit pas trop énorme. On ne peut pas observer la Fédération de Russie. D'accord ? Donc des espaces circonscrits, des petites communautés. De petites communautés. Cette méthode d'observation présente une continuité particulièrement importante avec les enquêtes ethnographiques. Il y a une continuité, si vous voulez, de méthode et de démarche avec l'ethnologie. Donc, on a étudié notamment des villes ou des quartiers de villes. On va voir ensemble notamment l'un des ouvrages fondateurs de William Foote White, qui s'écrit de cette façon, de William Foote White, qui s'appelle Street Corner Society, donc la société des coins de rue, et qui porte sur un quartier de Boston, qui est une enquête, une véritable enquête ethnographique dans ce quartier de Boston. Street Corner Society, William Foote White. Les observations sont possibles dans ce genre d'espace, donc il y a eu d'autres enquêtes sur des petites villes américaines. L'observation est possible parce que vous avez un cadre qui est limité et un nombre d'interactions fini, en quartier, c'est un quartier, donc vous pouvez l'étudier, ethnologiquement parlant. C'est difficile d'étudier Paris, si vous voulez, ou Moscou, laissez tomber. Bon. On a également étudié par cette méthode des communautés qui ne sont pas réunies dans un quartier, mais qui sont réunies par d'autres caractéristiques, pas forcément géographiques, notamment par une activité ou par un mode de vie, par des pratiques, des activités ou par un mode de vie. On va voir ensemble également, mais un petit peu plus tard, parce que c'est la deuxième école de Chicago, un autre auteur important qui s'appelle Howard Baker, et qui a étudié, par exemple, les musiciens de jazz et les fumeurs de marijuana, dans un livre célèbre qui s'appelle Outsiders, qui est l'un des livres fondateurs en sociologie interactionniste. Ça c'est un secret, je ne peux pas le dire. Mais je pense que oui. On a également étudié par cette méthode des institutions. C'est une méthode qui se prête beaucoup au fonctionnement des institutions. Par exemple, une école, un hôpital, l'un des travaux, pareil, deuxième école de Chicago. Erving Goffman, dans un ouvrage très célèbre qui s'appelle Asile, a étudié un hôpital psychiatrique. Donc c'est également un travail tout à fait essentiel en sociologie interactionniste. Donc, l'école de Chicago, première et deuxième, vous allez voir ce que c'est très bientôt, est lié à l'étude de quartiers, de communautés ou d'institutions. Alors, communautés, je vous ai dit, fumeurs de marijuana, il y a eu aussi des tas d'études sur les mondes du crime. Par exemple, la criminalité organisée, les voleurs, etc. Bon, c'est tout à fait passionnant. Alors, autres espaces, autres terrains qui ont été abordés avec cette méthode d'observation, c'est en particulier le monde du travail industriel. L'usine. 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 Alors, le monde du travail industriel était déjà l'objet d'observation qui était pré-sociologique, qui n'était pas sociologique, qui n'avait pas pour but l'étude scientifique de ces endroits, qui avait pour but des visées tout à fait pratiques et qui étaient observées, si vous voulez, dans le but d'accroître la productivité des ouvriers. On observait les ouvriers pour mieux comprendre comment ils fonctionnent, pour arriver à les faire travailler plus, d'accord, et plus efficacement. Donc vous avez des gens comme Taylor, par exemple, vous connaissez le taylorisme. Bon, Taylor, qui avait été un contremaître à la base dans une usine, avait observé la façon de travailler des ouvriers. Vous avez également tout le courant des relations humaines avec Mayo aux États-Unis également, qui a observé les ouvriers pour essayer de jouer sur d'autres facteurs que Taylor. Taylor, c'était l'organisation du travail, il fallait faire une organisation scientifique du travail. Et Mayo, c'était, il faut créer des conditions humaines pour que les ouvriers se sentent bien, pour mieux travailler. Bon. Donc tous ces observateurs pré-sociologiques ont constaté que les ouvriers ne travaillaient pas aussi efficacement qu'ils auraient pu. Et ils ont cherché des moyens de accroître leur productivité. Et puis ensuite, vous avez eu des travaux sociologiques, des sociologues qui se sont rendus à l'usine pour faire de l'observation, y compris participants, pour étudier la même question, mais du point de vue sociologique, c'est-à-dire sans objectif d'amener les ouvriers à travailler plus pour comprendre par quel mécanisme ils résistaient au travail à la chaîne, etc. Donc le monde du travail industriel. Et puis, il y a eu aussi ensuite, aujourd'hui, si vous voulez, en sociologie plus contemporaine, il y a des tas de milieux qui sont étudiés par observation, notamment tout ce qui concerne les services, le monde des services. Il y a des tas de métiers qui sont étudiés par observation, qui ont des concierges aux chauffeurs de taxi, aux entrepreneurs des pompes funèbres, des institutrices, des pharmaciens, des infirmiers, des secrétaires. Bon. Tous ces métiers sont souvent observés par observation, y compris. Alors, est-ce qu'il y a maintenant des terrains impossibles ? Est-ce qu'il y a des terrains sur lesquels on ne peut pas observer ? Oui, alors ça c'est plutôt des... Oui, il y a des pratiques qu'il est très difficile d'observer. Effectivement, toutes les pratiques qui se rapportent à l'intime, d'ailleurs, très opportunément, on a vu, grâce à Ilias, toutes ces pratiques se sont socialement construites, et effectivement, font maintenant partie des sphères cachées. Donc, il est très difficile, si vous voulez faire une enquête sur le comportement sexuel des Français, c'est très très difficile de le faire par observation. Ou alors, il faut le faire sur des pratiques sexuelles particulières. Mais ce sera un biais important. Alors, effectivement, des pratiques intimes. Autre chose, vous avez aussi des terrains qui sont fermés. Par exemple, oui, les prisons, quoique vous pouvez vous engager comme gardien à la prison. Mais effectivement, vous avez des terrains dans lesquels il est, oui, les prisons ou par exemple des secteurs comme la défense nationale. Si vous voulez étudier le FSB, je ne suis pas sûre que ça va marcher du premier coup. Ou alors il faut s'y prendre bien en avance. Il faut faire l'académie du FSB, il faut.
Et participer
à un bonito. Oui, participer à un bonito. Ou alors, vous pouvez essayer de faire des choses contre la loi et essayer de vous faire arrêter et puis vous étudier de l'intérieur en tant que citoyen. Mais c'est un peu trop de sacrifice pour la science. Voyez. Trop de sacrifice. Il y a eu une étudiante l'année dernière qui s'est fait embaucher chez McDonald's pour faire une observation participante. Et elle a travaillé 9 mois chez McDonald's à temps plein. Et déjà, je trouvais que c'était trop de sacrifice pour la science. Vraiment. Trop. Mais bon. Donc, des terrains fermés, donc défense nationale, services secrets, ou d'autres choses, comme le nucléaire, par exemple. Allez essayer de pénétrer sur le terrain du nucléaire. Bon. Ou alors, vous avez aussi des terrains qui sont juste dangereux et difficiles d'accès, qui ne sont pas fermés. Il n'y a pas d'interdiction formelle d'y pénétrer à des inconnus ou des extérieurs, mais qui sont dangereux. Par exemple, si vous voulez enquêter dans les milieux des Lancans, si vous voulez enquêter dans la mafia russe, vous pouvez y aller, je pense. Il n'y a pas d'interdiction formelle, mais bon. Alors justement, ça a été fait. Il y a des sociologues de l'école de Chicago qui n'ont pas enquêté dans la mafia russe, mais qui ont enquêté dans les milieux délinquants, dans les milieux des voleurs professionnels, etc. Donc dans les gangs, dans les bandes de jeunes délinquants, etc. Donc c'est possible. Mais bon, il faut avoir aussi le tempérament pour. Et une des solutions, évidemment, dans ce genre de milieu, c'est d'enquêter incognito. Parce que, effectivement, c'est peut-être trop demandé. Avec toute ma bonne volonté, je me déclare, je suis sociologue. Je veux suivre une éthique de la profession, donc coupez-moi la tête. Et puis enfin, vous avez des pratiques qu'on peut qualifier d'invisibles, c'est-à-dire d'inobservables. Et il s'agit de pratiques qui se déroulent dans le temps long. Si vous avez des pratiques très étirées dans le temps, vous pouvez difficilement les étudier par observation. Par exemple, si vous voulez étudier la socialisation, c'est très difficile de l'observer. Où est-ce que vous allez observer la socialisation ? Ou alors, il faut rester pendant 10 ans dans une même école pour étudier la socialisation secondaire, ou dans une famille pendant 10 ans pour observer comment les choses se passent entre l'enfant et les parents, mais ce sont des choses, ça ne marche pas très bien. Bon, donc, petite conclusion, c'est qu'il faut une adéquation entre la méthode et l'objet d'étude. Tous les objets ne se prêtent pas, toutes les méthodes, pardon, ne se prêtent pas également pour un objet. Il faut adapter votre méthode à votre objet. Ou au contraire, adapter votre objet à votre méthode. Lorsqu'on vous impose une méthode, c'est un petit peu ce qui se passe ici en deuxième année. On vous conseille de choisir des sujets qui peuvent être étudiés en un temps relativement court, donc des communautés ou des institutions assez circonscrites qui peuvent être étudiées par observation et entretien. Bon. Donc pour l'observation, entre autres, il faut un petit peu, comme vous savez, dans le théâtre, en tragédie, une unité spatio-temporelle, une unité d'action. Donc il vous faut quelque chose, des pratiques sociales qui soient limitées dans l'espace, pour que ce soit possible de les observer, et limitées dans le temps, pour qu'ils soient aussi, soit qu'ils se reproduisent, soit qu'ils soient limités dans le temps, pour qu'il vous soit possible de les observer physiquement parlant. Et puis aussi, il faut des pratiques qui autorisent une présence prolongée. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire de l'observation un jour. Faire un peu d'observation 3 fois, si vous voulez, ce n'est pas faire de l'observation. L'observation, c'est quelque chose de tout à fait régulier et de prolongé. Mais bon, tout ça laisse beaucoup de choix. Il y a beaucoup de sujets qui sont traités avec l'observation, donc il faut juste pas se tromper complètement. Alors, comment se déroule un travail d'observation? Je vous invite encore une fois, comme je l'ai fait la dernière fois, à lire l'extraordinaire ouvrage de Florence Weber et Stéphane Beau, le guide de l'enquête de terrain. Le déroulement d'un travail d'observation. Alors, il y a une partie du travail qui se fait en amont, qui se fait avant l'observation. Il y a une préparation à l'observation. Tout d'abord, il faut délimiter votre terrain. Quand vous voulez observer, vous avez votre sujet, vous avez vos problématiques, vous devez délimiter le terrain. C'est-à-dire que vous devez choisir un terrain qui soit pertinent pour étudier la pratique qui vous intéresse. D'accord ? Quel terrain choisir pour étudier, je ne sais pas, par exemple, les conditions de travail. Par exemple, ce sera un travail particulier, effectivement, quelle usine? Vous ne pouvez pas observer l'usine en général, elle n'existe pas, il n'y a que des usines particulières. Donc vous devez justement vous renseigner au préalable. Il faut faire une démarche de familiarisation avec le terrain pour comprendre quelle usine serait pertinente. Quelle est l'usine qui présente des traits, entre guillemets, idéal typique d'usine? Vous aurez une chance d'observer des processus qui pourront être un minimum généralisables. Oui. Il ne faut pas prendre des usines complètement particulières ou alors avoir une problématique particulière. Alors. Mais si vous voulez faire quelque chose sur le travail industriel au sens large, il faut essayer de trouver une bonne usine métallurgique où travaillent des vrais ouvriers, d'accord, bon, etc. Donc, il faut un peu connaître le milieu. Il faut lire des choses là-dessus, des travaux précédents, bien évidemment. Et puis, il faut aussi un peu d'intuition et de la chance. Il y a la question de pertinence pratique qui se pose pour cette méthode-là, comme pour aucune autre. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit, il s'agit d'une présence prolongée. Donc vous devez y être pendant longtemps. C'est-à-dire que pendant un laps de temps substantiel, vous devez vous y rendre régulièrement. Alors, peut-être pas tous les jours, c'est la, chaque sociologue fixe en fonction de ses besoins et de ses possibilités un calendrier d'observation, mais vous devez vous rendre de façon régulière sur votre terrain. Donc, si vous habitez à Moscou et que vous choisissez votre terrain d'observation à Vladivostok, ça ne marche pas. Ou alors, il faut déménager pour un temps. Il faut déménager pour un temps. Donc, le terrain doit être accessible. Il doit être accessible. Et puis, il doit être, comment dire, il doit avoir une taille pertinente, c'est-à-dire ni trop petite, parce que ce serait trop limité, ni trop grande, c'est-à-dire pour que vous, dans le temps qui vous est imparti, vous puissiez observer la totalité des interactions et des pratiques qui ont lieu. Donc, par exemple, une usine, il vaut mieux pas prendre une usine gigantesque que vous n'aurez aucune chance d'observer dans sa totalité, ou alors de limiter votre sujet à telle partie du travail industriel. Alors, donc, délimitation du terrain. Ensuite, il vous faut choisir le mode d'observation. Est-ce que ce sera une observation participante ou non participante? Est-ce que ce sera une observation incognito ou à découvert? Alors, le rôle d'observateur simple, c'est-à-dire que vous prenez lorsque vous choisissez une observation non participante et à découvert, vous venez en tant que sociologue, en tant qu'observateur, pour observer les pratiques sociales dans un lieu donné. Alors, c'est un rôle qui semble aller de soi, qui semble s'imposer. Et effectivement, c'est le rôle, disons, qui exige le moins d'efforts, d'adaptation ou d'efforts psychologiques même lorsque on le tient. Cependant, c'est un rôle qui présente un certain nombre de problèmes, parfois. Alors, il y a des terrains sur lesquels il ne présente pas de problème. Mais il y a des terrains sur lesquels il présente des problèmes particuliers. L'un des problèmes fréquents qu'on rencontre, c'est la confusion de ce rôle d'observateur avec le rôle d'un censeur, de quelqu'un qui est là pour vous contrôler, pour voir ce que vous faites dans des buts obscurs, pas très clairement identifiés. La confusion qu'on peut faire entre l'observateur sociologue et d'autres types d'observateurs. Dans le monde du travail industriel, par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de Taylor, il n'y a pas que des sociologues qui observent. Les ouvriers qui travaillent à la chaîne sont en permanence observés. Ils sont observés, entre autres, pour voir, effectivement, s'ils remplissent bien les protocoles de travail, est-ce qu'ils ne prennent pas trop de pauses, est-ce qu'ils viennent à l'heure, est-ce qu'ils font bien leur travail. Donc, vous serez obligé de vous démarquer de ces autres observateurs pour affirmer votre statut à part. Donc, la confiance qu'on va vous accorder ne va pas de soi. Ce statut d'observateur, je vous regarde, déjà c'est intimidant, c'est pas forcément agréable de se sentir observé. Et puis, ça peut induire des problèmes de ce genre. Vous avez également le problème dont je vous ai déjà parlé, je ne sais plus quand, c'est que la présence d'un observateur peut aussi modifier la situation sociale. C'est-à-dire, un observateur peut modifier la situation qu'il est en train d'observer. C'est-à-dire, son travail serait biaisé. Donc, c'est un rôle qui offre une prise facile à la critique. D'accord ? Alors, une prise facile à la critique, oui, mais il y avait un observateur, donc il y a des biais. La situation n'était plus la même. J'avais pris tout à l'heure l'exemple des vigiles. Supposons que vous voulez enquêter sur une boîte de nuit dont vous savez qu'il y a des comportements racistes dans le face control. Donc vous venez, vous dites bonjour, donc je suis sociologue, j'aimerais voir s'il n'y a pas des comportements racistes dans le face control. Je peux vous observer, oui, oui, bien sûr. Installez-vous. Bon. Vos chances de remarquer un éventuel biais raciste dans le face control s'amenuisent brusquement. Bon. Donc, on peut perdre, si vous voulez, les avantages de la méthode, voire les vraies pratiques. Vous voyez, parce que l'idée de l'observation, c'est qu'on peut voir vraiment ce que les gens font. Mais si on se déclare comme ça, comme observateur, dans certains cas, on peut perdre les avantages de la méthode. Pas dans tous les cas, mais il y a des situations où ça peut poser problème. Et c'est surtout actuel pour des terrains qu'on appelle sensibles. Donc là, j'ai parlé de le racisme, c'est un terrain sensible parce que ça va contre le politiquement correct d'une société. Vous avez d'autres terrains sensibles autrement. Vous avez eu des travaux, par exemple, à l'école de Chicago, vous avez un sociologue qui s'appelle Nels Anderson qui avait fait un travail sur ce qu'on appelle les hobos. Les hobos, c'est-à-dire des travailleurs migrants à moitié vagabonds, donc au début du siècle, donc aux États-Unis. Donc ce milieu aurait été complètement perturbé par l'observation d'un sociologue appartenant au monde académique, etc., les classes favorisées, etc. Donc, Nels Anderson a dû adopter le mode d'observation participante, puisque, en fait, c'était un sociologue qui avait été vagabond dans le passé. C'est un parcours atypique. Bon, donc, il pouvait prendre ce rôle. Bon, donc, la solution à ces biais, donc, c'est de faire une observation participante. Prendre un rôle déjà existant. Vous avez un groupe, il y a des rôles. Vous pouvez prendre un rôle dans ce groupe pour observer. Qui n'implique pas forcément une observation incognito. Je le répète parce qu'on fait souvent la confusion. Participer, ça ne veut pas dire se cacher. Par exemple, il y a une étudiante de deuxième année qui fait son enquête dans une maison de retraite. Et elle a choisi, alors je ne sais pas si elle va s'y tenir, mais elle a décidé de faire son enquête par observation, mais participante, mais non incognito, c'est-à-dire à découvert. Elle prend le rôle d'une stagiaire du personnel encadrant de la maison de retraite, mais tout en disant qu'elle voulait étudier cette maison de retraite, mais avoir un rôle, parce qu'elle a remarqué qu'avoir un rôle l'aidait en fait à avoir une légitimité aux yeux des personnes âgées. Elle gagnait leur confiance en étant aussi partie de leur monde, de ce monde de la maison de retraite, et ils étaient plus inclins à lui parler de leur parcours, trajectoire pratique, etc., que quand elle se présentait uniquement « je suis juste sociologue, etc., voilà, je vous étudie ». Donc prendre un rôle déjà existant. Cependant, si vous prenez un rôle déjà existant, ça vous pose aussi des problèmes. Le premier problème, c'est que ça vous limite dans ce que vous pouvez observer. Ça vous limite. Pourquoi ça vous limite? Par exemple, si vous étudiez, maison de retraite, ou par exemple, si vous étudiez un hôpital, vous pouvez observer de différentes façons. Vous pouvez choisir le rôle d'un infirmier, si vous avez des ressources, ou d'un aide-soignant. Vous pouvez aussi prendre le rôle du patient. Vous tombez malade, hop, vous allez à l'hôpital. Sauf que, selon votre rôle, vous n'allez pas voir la même chose. Si vous êtes patient, vous allez pouvoir observer les patients et l'interaction des patients avec le personnel soignant. Mais vous n'allez pas voir les coulisses du milieu professionnel, des infirmiers, des médecins, etc. Si vous prenez le rôle des infirmiers, c'est l'inverse. Vous allez pouvoir voir les coulisses, mais vous n'allez peut-être pas pénétrer dans le monde des patients aussi profondément que si vous étiez patient vous-même. Et ça va plus loin. Si vous êtes infirmier, vous n'allez peut-être pas être aussi intime avec les médecins que vous allez l'être avec les infirmiers, etc., etc. Donc selon le rôle que vous choisissez, vous êtes contraint dans vos déplacements. Un infirmier n'a pas le droit d'aller partout. Et le patient encore moins. Oui. Ah oui, bien sûr. Vous pouvez vous dédoubler. Oui, vous pouvez effectivement introduire deux sociologues et comparer les résultats d'enquête, c'est tout à fait intéressant, bien sûr. Bien sûr. Deuxième problème, c'est que le biais qu'on a évoqué à propos de l'observation en général, c'est-à-dire le fait que vous pouvez perturber la situation sociale, ce biais n'est pas forcément annulé si vous prenez un rôle. C'est-à-dire que si les gens savent que vous êtes un sociologue, il ne suffit pas de participer pour que le biais disparaisse. Parfois, même si vous participez, le biais reste. Notamment dans le monde du travail industriel, un sociologue qui vient et qui met le bleu de travail et qui dit « moi je vais faire comme les ouvriers », bon, déjà il doit mettre un certain temps pour arriver à fonctionner comme un ouvrier, il ne sait rien faire, il est ridicule, n'a pas du tout le même langage, donc il n'arrive pas à se faire oublier. Donc les acteurs de la situation peuvent de toute façon garder cette impression d'un intrus, d'un étranger. Bon, il y a d'autres situations, il n'y a pas que le monde du travail, évidemment, mais parfois prendre un rôle juste ne suffit pas. Si vous arrivez dans une secte et que vous dites « je suis sociologue, mais je veux devenir infidèle », mais à la fois je veux vous observer, ça se passe peut-être mieux que si vous dites « je veux juste vous observer », mais ça ne se passe pas forcément très bien non plus. Donc, l'observation incognito, c'est, si vous voulez, le dernier recours. C'est le recours auquel on a et qui pose un certain nombre de problèmes éthiques, comme je l'ai dit, mais c'est un recours auquel parfois on a lorsqu'on ne peut pas faire autrement. Par contre, si vous commencez à observer incognito, donc vous prenez un rôle et vous ne dites pas que vous prenez un rôle, ça implique que vous devez vous renseigner sur le terrain, beaucoup. C'est-à-dire que si vous décidez d'être un ouvrier, mais que vous ne savez rien faire, votre rôle risque de ne pas passer. Si, je suis ouvrier, tourneur, traiseur, ah bon, il faut faire ça, moi. Ça risque de mal se passer. Une des solutions qu'on trouve souvent, c'est qu'on se présente comme un novice. Je suis ouvrier, mais je ne sais encore rien faire, donc c'est la première fois que je travaille, apprenez-moi tout, etc. Bon. Alors, donc, d'une façon générale, on essaie de se documenter sur le milieu, que ce soit pour apprendre un rôle ou même pour apprendre des choses sur les pratiques qui existent, pour éviter d'arriver sur le terrain ignorant. Il vaut mieux ne pas arriver sur le terrain totalement ignorant, pour pouvoir déjà avoir quelques outils d'analyse. Donc c'est important de lire des travaux qui existent sur le sujet, mais à l'inverse, il faut se méfier des pré-notions, évidemment, qui existent sur le terrain, parce que parfois mieux vaut être totalement ignorant. Mais bon, c'est-à-dire qu'il est important de lire des travaux qui existent sur la question, mais il est important aussi de garder en tête qu'ils peuvent être remis en question, remis en cause par ce que vous allez observer. Vous voulez poser une question ?
Si on participe en premier cours, alors comment on peut noter ?
Oui, grande question. J'allais l'aborder plus tard, mais je peux vous le dire tout de suite. De toute façon, vous ne pouvez pas souvent noter immédiatement. Si vous avez un rôle, même si vous êtes à découvert, si par exemple vous êtes dans un rôle d'infirmier, vous devez faire des choses. Ou cette jeune fille qui fait son enquête sur les personnes âgées à la maison de retraite, si elle travaille là-bas comme stagiaire, elle doit faire des choses avec les personnes âgées. Elle ne peut pas leur dire « Venez, je vais vous aider à marcher, attendez, je vais noter. » Et encore pire si vous êtes ouvrier. Vous imaginez, vous travaillez à la chaîne, vous n'allez pas à chaque fois lâcher votre détail et laisser partir la chaîne, comme Charlie Chaplin, vous savez, dans le truc, et noter et puis courir derrière, c'est pas possible. Donc, de toute façon, il est rare que vous puissiez noter de suite. Donc, l'un des efforts quand on fait de l'observation, c'est l'effort de mémorisation et de transcription des choses immédiatement après. C'est-à-dire, vous rentrez chez vous, la journée, vous observez, le soir, vous notez.
Quelles sont les caméras ?
Ça ne se fait pas. Ou alors, au contraire, vous observez le soir dans une boîte de nuit et vous notez au petit matin quand vous rentrez chez vous. Bon. Mais effectivement, c'est une vraie question. Parfois, certaines configurations vous permettent de noter sur place. C'est des configurations très confortables. C'est-à-dire celles où vous avez la meilleure retranscription des choses parce que vous avez tous les détails, vous ne risquez pas de les perdre. Mais c'est rare que ce soit vraiment possible. Alors, donc deuxième étape, donc ça c'est tout ce que j'avais dit, tout ce que j'ai dit jusque-là, c'est avant le terrain, donc la préparation, le travail en amont de l'observation. Ensuite, vous entrez sur le terrain. Il y a l'étape de l'entrée. Vous entrez. Vous arrivez sur le terrain. C'est un moment très important, parce que quand vous entrez sur le terrain, vous prenez votre posture, vous endossez votre rôle. Si c'est le rôle d'un sociologue, c'est le rôle d'un sociologue. Si c'est un rôle existant, c'est un rôle existant. Mais c'est un rôle que vous allez devoir tenir ensuite, pendant votre enquête. Il est déconseillé de changer de rôle au milieu, parce que ça vous expose à la méfiance de la part des enquêtés, bien évidemment. Sauf certaines circonstances. Parfois, ça peut marcher. Par exemple, l'étudiante de l'année dernière, qui a fait son travail sur le McDo, très très bon travail, elle a d'abord observé incognito pendant plusieurs mois. disait à personne. Et puis, à un moment donné, elle a fait son coming out et elle a dit, en fait, je voudrais bien des entretiens, parce qu'après, quand vous avez besoin d'entretiens, vous êtes bien obligé de dire qui vous êtes, parce que, ou alors vous faites que de l'observation, mais bon, c'est rare. Mais en fait, ça s'est bien passé parce qu'elle a dit qu'elle travaille ici, parce qu'elle travaille ici pour gagner de l'argent, etc. Mais en même temps, elle fait des études de sociologie, donc elle a choisi d'étudier, effectivement, le travail. Elle a dit la vérité, en gros, sauf que son idée s'est formée un peu plus tôt, mais elle n'a pas dit ça aux gens comme ça. Je suis venue vous observer incognito et je ne vous ai pas dit. Et tout ce temps-là, je vous ai observé et maintenant, je vous le dis, bon, etc. Ce qui risque de provoquer une réaction hostile. Il suffit parfois de présenter les choses un tout petit peu autrement pour ne pas avoir de réaction de rejet. Donc, bon, c'est pas totalement impossible. Alors, donc, lorsqu'on rentre sur le terrain, lorsqu'on fait son entrée, si on observe à découvert, la chose à faire, et en général à répéter, c'est se présenter. Bonjour, alors voilà, je suis sociologue, et vous commencez la même explication qui dure un certain nombre de temps. Comment vous vous appelez, pour quelle institution vous le faites, et quel est ce genre de travail universitaire, est-ce que vous voulez faire, et est-ce que ça ne gêne pas la personne, etc. Et merci beaucoup, et c'est très gentil. Voilà. Donc vous le répétez à chaque fois. Si vous êtes incognito, votre entrée sur le terrain correspond à votre endossement du rôle. Vous endossez le rôle, vous rentrez dans le rôle au moment où vous rentrez sur le terrain. Donc là, comme je vous ai dit, ça impose un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire, aidant, c'est souvent un rôle nouveau, donc il faut apprendre à faire des choses. C'est passionnant de recruter des sociologues. Vous pouvez apprendre des tas de trucs que vous ne saviez pas faire, du travail à l'usine à la chaîne, faire des hamburgers au McDo, travailler avec des personnes âgées, et j'en passe. Bon, donc, apprendre des choses en même temps que vous observez, donc c'est une complexité supplémentaire, c'est-à-dire c'est une complexité que vous n'avez pas lorsque vous faites que observer. Et donc, encore une fois, la solution, c'est de se présenter comme un novice. Voilà, je veux faire infirmier, mais je ne l'ai jamais fait, donc voilà. Et d'être novice, ça a beaucoup d'avantages, c'est-à-dire que ça vous permet aussi de poser des tas de questions sans que ces questions embêtent vos interlocuteurs. Si vous vous présentez comme un ouvrier expérimenté, si vous posez des questions sur toutes les étapes du travail, c'est embêtant et ça semble bizarre. Par contre, si vous commencez, si c'est votre premier emploi, ça n'a rien de bizarre, ça semble normal. Donc vous pouvez poser des tas de questions très pratiques qui finalement vous permettront d'accumuler des connaissances sur le milieu. Et en plus, ça expliquera votre maladresse. Si vous êtes à découvert, vous avez une chose extraordinaire que vous pourrez faire, que vous participiez ou que vous ne participiez pas. Si vous êtes à découvert, l'entrée sur le terrain correspond en général à une étape très importante de l'enquête, c'est la recherche des alliés. Lorsque vous rentrez sur le terrain, si vous vous présentez comme sociologue, vous pouvez rechercher des alliés, ce qu'on appelle des alliés. Des alliés qui sont des personnages clés, des figures importantes de cette communauté ou institution au milieu dans lequel vous voulez faire votre enquête et qui vont vous aider dans votre enquête. Qui seront vos informateurs privilégiés, qui vont déjà pouvoir vous fournir beaucoup d'informations sur le milieu et qui vont pouvoir vous introduire dans le milieu. C'est-à-dire, une fois que vous aurez gagné leur confiance, ils pourront vous introduire aux autres membres de la communauté sans que vous ayez à chaque fois répété ce travail de mise en confiance. Trouver un bon allié, c'est la moitié de l'affaire. Vous avez notamment William Footwhite, c'est un exemple qu'on cite toujours quand on parle des alliés. William Footwhite, dans son ouvrage donc Street Corner Society sur le quartier de Boston, le quartier italien de Boston, dans cet ouvrage, il retrace toute son enquête. Et dans son enquête, il avait un allié qui s'appelait Doc, on va le voir ensemble, qui était le chef d'une des bandes. Il y avait des bandes de jeunes, donc l'un des chefs de bande qui s'appelait Doc est devenu l'allié privilégié de William Footwhite, c'est devenu son ami. Donc il a passé très très longtemps, il a passé je ne sais plus combien, je crois que c'était 2 ans, je ne me souviens vraiment plus, mais longtemps dans ce quartier, et donc ce Doc, pendant tout ce temps, était son... son informateur et son guide dans le milieu, il a même fini par participer un peu à l'analyse. Donc il lui fournissait même des éléments d'analyse. Donc c'est une relation parfois très forte qui se crée entre le sociologue qui observe et son informateur ou ses informateurs privilégiés. En tout cas, c'est un outil extrêmement précieux parce qu'il lui permet d'accéder à des niveaux de sociabilité et des niveaux de pratique qu'il n'aurait peut-être pas vu ou en tout cas, il mettrait beaucoup plus de temps à apercevoir et à y pénétrer. Alors, donc, une fois que vous êtes entré sur le terrain, commence le temps de l'observation elle-même. Donc, un temps souvent assez prolongé. Donc, l'enquête. On va s'arrêter là. On va réserver le temps passionnant de l'enquête pour la séance après le devoir, donc dans 2 semaines, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc sur ce, je vous dis bonne semaine, bonne révision, et si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire par email.